Campus burada
88.1 radyosunda 88.1'desiniz.
Il est 13h05 et c'est à présent l'instant invité et interview. Aujourd'hui sur notre antenne, nous recevons l'association Les Débatteurs avec Alexis, créateur, fondateur et coach, ainsi que Lucie, stagiaire en communication pour cette même association. Bonjour à tous les deux, comment allez-vous ?
Bonjour Mélissa, ça Bonjour. Va très très bien.
Alors si on vous reçoit ici aujourd'hui, c'est pour parler bien évidemment des débatteurs, mais aussi d'éloquence. Et tout d'abord, première question, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre association et notamment la jeunesse de celle-ci ?
Oui, tout à fait. Donc c'est une association qui a été créée en 2015. Donc d'abord sous la forme d'un autre nom qui s'appelait Voix Publique, et puis ça a évolué vers Les Débatteurs. Et donc on est parti d'un constat simple avec l'autre Alexis, qui est également fondateur et créateur de l'association. C'est qu'on s'est dit, c'est chouette, il y a beaucoup d'associations sur Bordeaux qui sont consacrées à l'éloquence, mais elles s'adressent surtout à des publics qui sont déjà formés à ces pratiques-là, donc les publics en droit, en sciences politiques, voire en école de commerce. Nous-mêmes, on a commencé en fait en étant dans ces associations-là. Et on s'est dit, c'est chouette, mais par contre, qu'en est-il des autres étudiants, donc étudiants en médecine, étudiants en biologie, étudiants en psychologie, sociologie, bref. Et qu'en est-il également des autres publics qui n'ont pas forcément accès à cette prise de parole. Donc je pense notamment à des publics de cité, à des jeunes collégiens, lycéens professionnels, bref, tous les publics qui sont un peu éloignés de la prise de parole. Donc on s'est dit, c'est peut-être le moment de créer notre association, Les Débatteurs, où nous allons pouvoir justement aider ces personnes qui sont éloignées de la parole, qui en ont réellement besoin. Bon, bien sûr, on accepte toujours les personnes qui savent bien s'exprimer au genre de choses. Bien sûr, c'est toujours un plaisir de travailler et de peaufiner leur prise de parole. Mais on préfère travailler avec celles qui sont un peu plus éloignées de la prise de parole.
Et comment ça se passe ? Alors, on est intéressé pour se former à la prise de parole, on vient toquer à la porte des débatteurs. Qu'est-ce qui est mis en place ? Ça nous donne droit à quoi ?
Et donc, on vient toquer à la porte portable des débatteurs. Donc, on a plusieurs possibilités pour s'investir au sein de l'association. Donc, on a des ateliers qui sont menés à la faculté de Bordeaux, donc sur le campus de la Victoire, tous les lundis de 17h30 à 21h30, donc deux créneaux de 2 heures. Et ça, c'est tous les étudiants de l'Université de Bordeaux qui peuvent avoir accès à ces cours gratuitement. Et donc là, l'idée, c'est justement de travailler la prise de parole, de savoir comment est-ce qu'on devient plus captivant, comment est-ce qu'on on est capable de mettre ça en pratique justement à la fin devant un public. Et justement, pour cet objectif-là, les ateliers hebdomadaires qu'organise donc l'autre Alexis au campus de la Victoire proposent à la fin un spectacle. Et donc, ça fait 4 ans qu'ils sont mis en place, ces ateliers, et ces spectacles ont eu beaucoup de succès ces dernières années. Notamment, l'an dernier, c'était un spectacle qui s'appelait Parole d'honneur. Donc, c'était une sorte de voyage itinérant dans le sein du campus de la Victoire, où en fait, partout où on se déplaçait, on voyait des prises de parole différentes, donc un peu de conte, un peu de débat, une sorte de professeur qui harangue ses élèves. Bref, plein de formes de prises de parole. Et puis, il avait aussi créé une vidéo donc, qui s'appelait « Cellules de crise ». Et donc, c'était pendant le Covid, forcément, avec l'objectif de, là, pour le coup, prendre la parole face caméra. Donc, c'était un autre exercice. Et cette année, il y aura encore justement la possibilité de participer et de voir un événement comme ça. Je ne vous en dis pas plus parce que ça reste une surprise et c'est inattendu. Et parallèlement à ces ateliers de lundi soir, on anime surtout une formation annuelle les mercredis soirs, donc qui sont pour beaucoup tout public. Donc ça, c'est un groupe adulte, donc de travail, des gens qui travaillent, des étudiants, bref, tout le monde. Et c'est un créneau pareil de 2 heures, de 19h à 21h. C'est un tarif beaucoup associatif, un peu comme les tarifs qu'on retrouve justement avec des associations de théâtre, d'improvisation, tout ça. Et là, pareil, il y a une progression annuel autour donc de la prise de parole, mais où on part des fondamentaux, des outils qu'on développe, ce qu'on est en train de faire actuellement, où on mobilise notre voix, les intonations, bref, tous ces outils-là. On met un peu de pédagogie, on met la danse, l'improvisation, le théâtre pour développer ces compétences. Et puis, bien sûr, on passe par la rhétorique. Et donc, c'est une progression qui est annuelle avec notre vision à nous de l'éloquence.
Et pour continuer à parler d'éloquence, c'est une question qui revient souvent, mais est-ce que tout le monde peut devenir éloquent et surtout à l'aise à l'oral ?
Tout à fait. Il n'y a pas de prérequis pour être éloquent. Je laisserai juste après ma chère Lucie faire un petit témoignage. Mais juste pour préciser, en fait, pour vous donner un aperçu, parfois, quand on organise des événements, on a, on reviendra sûrement sur l'organisation des événements, mais on a 2-3 sessions d'entraînement. Et il y en a, y a des participants au début qui ont du mal, ne serait-ce qu'à dire leur prénom, qui bégayent pour dire leur prénom parce que ça les intimide, et qui se retrouvent, même pas 2 semaines après, à être devant un public de 100, 200 personnes, à défendre une position, à se lâcher totalement, et voilà, exploitation de leur potentiel à 200%, et c'est fabuleux. Et peut-être que Lucie peut nous parler également de son expérience.
Oui. Oui, Lucie, comment t'as rejoint cette association? Quelle est ton implication? Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, dans ton parcours et ton éloquence?
Eh bien, j'ai toujours été animée par l'éloquence, notamment à mon université à Toulouse. J'ai eu la chance de participer à des concours d'éloquence, ce qui m'a vraiment enthousiasmée. Je me suis dit, OK, j'ai un stage à faire, j'ai envie de me spécialiser dans ce domaine-là. Et donc, c'est tout naturellement que je me suis renseignée auprès des débatteurs en cherchant l'association sur Internet. Et donc, c'est très enrichissant. Alors, moi, je suis là pour faire la communication, donc... Je m'intéresse notamment à la communication numérique, aux réseaux sociaux. Je mets en place une stratégie pour essayer de fédérer et animer la communauté grandissante des débatteurs. Et aussi, j'ai de la chance à côté de pouvoir participer aux ateliers d'éloquence, ce qui me permet voilà, de me former aussi à la rhétorique, à la prise de parole en public. Et je ne cesse de progresser. Donc, c'est vraiment un plaisir de participer aux débatteurs.
On entend souvent le terme art oratoire. Est-ce que bien parler devant les autres, bien s'exprimer, c'est véritablement un art?
Oui, tout à fait. Il y a une forme d'art là-dedans, parce qu'il s'agit de savoir manier les mots, savoir les agencer les uns les autres dans un discours pour rendre la prise de parole la plus pertinente, la plus performative, pour que le message passe, donc être convaincant et persuasif. Et donc, par le biais, pourquoi on parle d'art aussi, c'est parce que derrière la mobilisation de ces mots, de ces émotions, d'arguments longs logiques, et également d'une communication qui va se passer par la gestuelle, par l'intonation, tout ça, et on vient susciter des émotions, on vient créer quelque chose chez la personne qui nous écoute, chez l'auditeur, et en même temps, on peut justement générer des modifications de comportement, des réactions. Et c'est ça aussi qu'on cherche à faire, nous, dans nos ateliers, dans nos événements et dans la pédagogie qu'on amène, c'est se servir de cet art pour faire passer des idées, pour défendre des causes. Parce que on va venir soulever justement des émotions, des affects en fait, chez nos auditeurs pour peut-être engager derrière des actions concrètes. Et notamment, on organise un concours, on participe à l'organisation d'un concours à destination de jeunes de lycée pro, lycée agricole, MFR, sur le thème des agendas des objectifs du développement durable, donc les agendas 2030, où ils sont invités à devoir réfléchir au monde en 2030. Et donc, derrière, on les invite à réfléchir sur ces questions-là et à faire un discours qui va mobiliser les gens qui vont les écouter et à faire en sorte que peut-être qu'on va avoir envie de s'investir dans une association, peut-être qu'on va avoir envie d'interpeller nos élus. Bref, c'est ça qu'on veut créer derrière, c'est développer le pouvoir d'agir. Et donc, cet art a cette qualité de pouvoir développer cette action-là.
Donc, le travail de fond, c'est aussi important que la forme, au final?
Essentiel, bien sûr. On ne peut pas se ranger derrière la forme. Alors, bien sûr, ça va avoir un énorme impact sur la prise de parole, sur véhiculer ses émotions, tout ça. Mais derrière, si on n'a pas un vrai message à porter, notre prise de parole, elle est sans intérêt, elle est vide de sens. Alors, bien sûr, on va pouvoir mobiliser, on va pouvoir avoir quand même touché des gens si on parle en brasse de l'air ou ce genre de choses. Mais c'est pas, de notre conception en tout cas, c'est pas ça l'intérêt d'une prise de parole. Il faut justement avoir quelque chose de constructif à dire, faire réfléchir. Et c'est ça qui rend en tout cas le débat intéressant. Et justement, dans une période où le débat se meurt un peu, où il y a une polarisation des positions, en fait l'éloquence, ça peut être ce pont justement pour, entre les différentes positions. Et ça invite à travailler la complexité et donc à se mettre à la place d'eux. Mais du coup, pour se mettre à la place d'eux, il faut avoir du fond et des arguments pour comprendre les positions des uns des autres.
quand on prend la parole devant les autres, c'est toujours un exercice intimidant, même pour les plus aguerris. C'est quoi le plus important au final ? Est-ce que c'est la confiance en soi ou bien est-ce que c'est l'acquisition de tous ces outils qui permettent malgré tout d'être un minimum performant et éloquent, même si on n'a pas vraiment confiance en soi ?
Eh bien, c'est un mix de ces deux choses. Je pense que tout à l'heure aussi, Lucie peut-être livrera, elle, son point de vue en tant qu'oratrice. Mais en tout cas, moi, de mon regard, je dirais qu'il y a ce, comment dire, on mêle forcément. En fait, l'éloquence amène à développer justement cette confiance en soi. Donc, du seul fait de participer aux ateliers, on renforce cette capacité à s'exprimer devant un groupe, on prend conscience de ses qualités, on prend conscience de quand finalement on risque pas notre vie quand on s'exprime devant un groupe, et donc on renforce cette confiance en soi. Et parallèlement, quand on acquiert les outils, une posture qui soit stable, qui soit justement bien ancrée dans le sol, un regard qui s'adresse réellement aux personnes à qui on s'adresse, le sourire, la gestuelle. En fait, tous ces petits détails, effectivement, ils participent déjà à la confiance en soi et en même temps, ils participent à être captivants dans la prise de parole. Donc voilà, c'est les deux choses, se nourrissent. En fait, je voudrais avoir le retour de Lucie, peut-être que.
Je suis totalement d'accord avec toi, et j'irais même rajouter que ce qui nous aide aussi à gagner confiance en soi et à s'exprimer à l'oral. Alors c'est sûr, évidemment, l'éloquence c'est pas quelque chose d'inné. Je pense que c'est un art qui s'apprend, mais ce qui personnellement moi m'a aussi beaucoup aidé, c'est d'être dans un groupe bienveillant. Toutes ces valeurs d'inclusivité, de bienveillance et de pédagogie font que quand on arrive et qu'on doit passer à l'oral, on se sent bien. Alors on fait des erreurs et c'est normal, mais le fait d'être accepté aussi par les autres dans cet environnement qui peut sembler à premier abord stressant, moi c'est ça qui m'a beaucoup aidé à prendre la parole.
Et en 2023, pourquoi c'est important d'être éloquent ? Notamment pour les étudiants.
Eh bien, c'est capital pour tous les aspects de la vie. Donc, c'est capital quand les étudiants vont devoir faire des prestations orales pour soutenir leur mémoire, soutenir leur thèse, pour juste défendre un positionnement. C'est capital dans les relations du quotidien, parce que quand on doit s'exprimer pour définir, ne serait-ce que dans quel restaurant on veut aller avec nos amis, ou est-ce qu'on fait soirée, mais à quel endroit on fait soirée ce soir, en fait, il faut déjà être un peu loquant, il faut défendre ses intérêts, il faut comprendre aussi la position de l'autre, être à l'écoute, et trouver des compromis. Donc il y a une nécessité de faire marcher son éloquence. Et parallèlement aussi dans les situations très personnelles, donc familiales, amoureuse, où à un moment donné, on est amené à devoir gérer une crise, un conflit avec l'autre, c'est arrivé à être constructif dans sa démarche, à être éloquent également quand on doit exprimer une problématique, mais pas chercher à convaincre à tout prix, parce que c'est pas le but, c'est justement ce ping-pong qui est intéressant. Donc, professionnel, personnel, enfin étudiante, personnelle, et bien sûr professionnelle, puisque demain vous avez un entretien d'embauche, si vous savez vous exprimer, si vous savez improviser justement sur les problématiques, enfin sur n'importe quoi, et surtout sur ce que va dire la personne qui va vous parler, donc cette écoute, vous êtes capable de tout faire, quoi. C'est aussi simple que ça.
Dans le monde politique, l'éloquence est quelque chose de très important, puisque les hommes et femmes politiques sont souvent amenés à prendre la parole en public ou dans les médias. Alors, je me posais la question, est-ce que l'éloquence, c'est pas aussi parfois, je dis bien parfois, un outil de manipulation ? C'est-à-dire que en maniant l'art de la rhétorique, l'art oratoire, on peut peut-être enrober un certain discours. On parlait du fond et de la forme, où pour le coup, là, c'est la forme qui prime et qui, pour le dire un peu vulgairement, qui embobine les gens.
Clairement, c'est la frontière qui est limite entre justement cette capacité à amener vraiment un message et celle où on veut faire en sorte que les gens croient à notre position sans forcément les amener à réfléchir sur celle-ci. Et on peut effectivement, en politique, il y a souvent cette rhétorique qui n'est pas forcément éthique, où justement on cherche plus à convaincre des gens de rejoindre nos camps plutôt qu'à les faire adhérer par nos idées. Et c'est là où c'est délicat, parce qu'on peut vite tomber dans le sophisme, à vouloir justement utiliser des arguments fallacieux, des termes mobilisateurs comme l'espoir, la liberté, la fraternité, toutes ces valeurs-là qui en fait comptent, sont très dépendantes de nos croyances et de nos représentations, qui sont évoqués sans forcément être précisés, mais du coup, quelqu'un qui nous parle de liberté, vous aurez plus de liberté, vous aurez plus de sécurité, du coup, on est d'accord avec ça, parce qu'on a envie d'avoir plus de liberté et plus de sécurité, sauf qu'on ne nous précise pas de quelle manière, en fait, on va arriver à cette liberté et à cette sécurité. Et c'est tout la difficulté, toute la difficulté, c'est que l'éloquence, elle ne jouit pas d'une belle notoriété. Et donc, nous, notre travail aussi, c'est d'arriver justement, quand on va avec les jeunes, les lycéens, avec d'autres publics qui sont un peu plus éloignés de l'éloquence, c'est justement de leur faire comprendre que l'éloquence n'est pas forcément cette éloquence-là politique, manipulatrice. C'est pas juste brasser du vent. C'est l'éloquence, c'est aussi venir avec ce qu'on est, avec notre authenticité, peut-être nos manières de parler. Et justement, venir défendre des choses, mais c'est-à-dire... Il y a un apprentissage d'une rhétorique éthique. C'est qu'on prend conscience que c'est un pouvoir, que ça peut manipuler. On essaye de l'utiliser pour pas justement manipuler les autres. Par contre, c'est essentiel, justement, quand vous tombez sur des personnes qui maîtrisent cet art à des fins manipulatoires, pour justement déceler les mécanismes qui sont utilisés par ces personnes-là pour pas se faire piéger. Et donc, c'est une sorte d'outil de défense, d'autodéfense.
Et alors, Lucie et Alexis, visiblement, vous êtes très à l'aise à l'oral. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous arrive encore d'avoir le trac, d'avoir une appréhension avant de prendre la parole ?
Personnellement, c'est quelque chose que je rencontre encore. Par exemple, j'ai fait beaucoup de théâtre et je sais qu'avant chaque représentation, je suis et j'étais encore très stressée. De même, là, pour les concours d'éloquence, ou même pour tout passage à l'oral, je reste stressée et je pense que c'est aussi un phénomène naturel, c'est même normal et je pense que c'est plutôt un bon signe.
Oui, on parle souvent de bon stress et de mauvais stress.
C'est ça. Mais voilà, ça m'arrive encore personnellement, mais c'est ce qui me donne de la force. Et une fois arrivée sur scène, une fois les premiers mots déclamés, je prends confiance en moi et tout se passe très bien.
Et Alexis ?
Alors, ça m'arrive encore, mais de manière très sporadique. Ça devient de plus en plus rare. Et puis, forcément, je suis tous les jours confronté à un public quand je donne des cours avec des jeunes. Donc, je suis tout le temps en train de prendre la parole. Donc, il y a moins ce stress. Mais par contre, c'est vrai que demain, si on me dit tu dois défendre une position, tu dois animer un public de 1 000, 1 500 personnes. Oui, mais il y aura un petit stress avant, parce qu'il y aura l'envie de bien faire, il y aura l'envie d'être captivant, mais par contre, ce stress est positif. Et donc, oui, gardons ce stress, parce que c'est un moteur.
Et alors, Alexis, tu nous parlais d'authenticité. Est-ce que quand on prend la parole en public, qu'on souhaite défendre une position, par exemple, est-ce qu'on joue un personnage ?
Alors, moi, je suis partisan du fait qu'il ne faut pas jouer de personnage. Voilà. Donc après, bien sûr, il y a des formes d'éloquence. Il y a plein de formes d'éloquence et même d'associations qui font d'éloquence différemment. Où parfois, on peut vite mêler interprétation avec prise de parole et où en fait, on ne sait plus si c'est vraiment un rôle, un personnage ou réellement une personne qui s'exprime. Moi, je pars du principe que quand bien même on défend des positions auxquelles on ne croit pas, pour être pertinent et être convaincant, il faut venir s'exprimer avec ce qu'on est et avec nos particularités, nos émotions, notre vulnérabilité. Et c'est ce qui va rendre la prise de parole la plus captivante et la plus vraie, la plus sincère. Parce que même si c'est un sujet auquel on ne croit pas, il y a quand même des arguments qui peuvent nous parler. Et il n'y a pas de vérité absolue. Et ça, c'est ce qu'on apprend aussi en éloquence et ce qu'on apprend dans l'esprit critique. Et donc, en fait, on peut toujours comprendre une position adverse. Et donc, essayer de la défendre. Et donc, venir avec ce que l'on est, c'est beaucoup plus puissant dans une forme d'expression. Mais c'est beaucoup plus dur, parce que on se cache pas.
Pour en revenir à l'association Les Débatteurs, ça fait 8 ans qu'elle existe maintenant. Quels sont vos objectifs pour la suite, vos envies de développement ?
On a plein d'envies de développement. On atteste justement le recrutement d'une stagiaire qui participe à cet essor de l'association justement pour être plus visible sur les réseaux sociaux. Et donc, les développements, ils sont simples. C'est continuer, nous, à déjà prendre du plaisir, à coacher encore davantage de personnes, donc que ce soit en coaching individuel et de groupe, mais également à continuer d'organiser des événements. Donc, des événements qui viennent divertir tout en faisant réfléchir. Ça, c'est notre marque de fabrique. C'est, par exemple, le 23 février, nous aurons un événement qui s'appelle donc Follow Moi et Vite, qui abordera le thème des réseaux sociaux. Et donc, l'objectif avec cet événement, c'est de venir, mais c'est comme ceux qu'on a fait récemment, c'est de venir proposer plusieurs types de prises de parole, donc du débat improvisé avec seulement 10 minutes de préparation, des prises de parole peut-être plus travaillées, des pitchs, un peu de stand-up, peut-être même un peu de slam, bref, voir comment toutes les formes de prise de prise de parole et d'éloquence. Et derrière, c'est toujours amener un message. Donc pour les réseaux sociaux, par exemple, on va aborder la question de reconnaissance sociale, la question des addictions, la question des fake news et de la désinformation, la question aussi des bulles algorithmiques qui nous bloquent et nous bloquent dans une idéologie, une pensée. Et donc c'est par l'humour, par l'interaction avec le public, par plein de choses, c'est comme arriver de manière indirecte à venir questionner justement les auditeurs qui sont présents dans la salle. Et ça, c'est vraiment le truc qu'on a envie de développer au maximum et qu'on va continuer à développer, puisqu'on va intervenir aussi au mois d'avril, dans le cadre d'un festival de culture urbaine à Lormont. Et pareil, là, ça va être autour de la culture urbaine, donc plutôt la question d'émancipation, de lutte, de contestation et tout ça. Mais c'est venir montrer à plein de monde que la prise de parole, c'est derrière, en fait, l'objectif global, c'est de démocratiser la prise de parole, en fait, par le biais de ces événements. Et de dire, en fait, vous pouvez vous exprimer, vous pouvez porter un message, mais vous n'êtes pas obligé de le faire de manière très formelle. Oui, bonjour, mesdames et messieurs, machin. Non, on peut le faire en faisant du stand-up, on peut le faire en faisant du slam. Bref, il y a plein de manières.
Il y a plein de manières, et d'ailleurs, sur votre site internet, on peut retrouver un podcast du nom de Café Éloquence. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus?
Et oui, en plus, Lucie va pouvoir nous en parler, parce qu'elle a réalisé une interview pas plus tard que la semaine dernière entre l'éloquence et le rap qui sortira bientôt. Je t'en prie, Lucie.
Oui, alors c'est vrai qu'on est en train de mettre en place un Café Éloquence, donc une chaîne de podcast sur l'éloquence qui fait aussi intervenir d'autres formes d'éloquence comme le rap. Par exemple, la semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'interviewer un artiste rappeur, et donc ensemble, on a vu un peu les ressemblances, les différences aussi entre le rap et l'éloquence. Et je pense que c'est un moyen déjà qui est en vogue, le podcast. Et donc le fait de pouvoir parler de l'éloquence et de d'autres formes d'art, c'est un sujet qui peut être vraiment intéressant pour les auditeurs.
Et aujourd'hui, après cette super interview, si on a été convaincu par les débatteurs, comment on fait pour vous rejoindre et éventuellement participer si on est intéressé?
Eh bien, on vous invite à nous contacter sur eloquence.bordeaux@gmail.com, ou bien vous allez directement sur notre site et vous trouverez un numéro de téléphone auquel vous pourrez nous joindre et nous répondrons bien évidemment. Et puis sinon, à nous rencontrer donc lors de nos ateliers le lundi soir ou le mercredi soir, et ce sera avec plaisir que nous discuterons et échangerons autour de vos projets.
Et si on veut se tenir au courant de vos événements à venir et de vos activités, il y a aussi les réseaux sociaux.
C'est ça. Alors sur Instagram, c'est les-débatteurs, et donc on se montre assez actif, on poste plusieurs fois par semaine des stories, du contenu varié et de quoi découvrir un petit peu l'ambiance qui se cache derrière l'association, et je pense que vous ne le regretterez pas.
Campus Bordeaux, 88.1.